Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Elle.
Rendez-vous chez elle, à Boulogne-Billancourt. C'est ici que Pauline Desroulaides, 3 fois championne de France de tennis fauteuil, récupère entre 2 entraînements en vue des Jeux paralympiques de Paris 2024, mais aussi de la médaille qu'elle espère bien décrocher. Pour cela, elle peut compter sur l'appui de Tiffaine, sa compagne et manageuse, qui s'éloigne discrètement quand l'entretien commence, mais aussi sur Ava, leur petite fille, dont les livres, les jouets et le mini-fauteuil trônent dans le salon. Un bonheur palpable qui n'avait pourtant rien de gagné. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Fauchée par un chauffard à 27 ans, Pauline Desroulaides a perdu sa jambe gauche. Après son accident, cette championne dans l'âme, dont le courage et la détermination forcent le respect, n'a pas voulu retrouver sa vie d'avant. Un job dans l'audiovisuel et un diplôme de prof de tennis. Bien au contraire, elle a tout fait pour s'imposer autrement. Je suis Marion Ruggieri, bienvenue dans Les Vagues, un podcast de Elle. Pauline Desroulaides, bonjour.
Bonjour.
Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se profilent. À quoi ça ressemble une journée de préparation pour une athlète de haut niveau telle que vous, 3 fois championne de France de tennis fauteuil ?
C'est des journées dédiées à l'entraînement physique et tennis, bien sûr, mais aussi l'entraînement de la préparation mentale, notamment. Beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices, parce que je me déplace beaucoup en tournoi, donc je ne suis pas souvent chez moi. Je consacre aujourd'hui totalement ma vie à l'entraînement, à cette préparation paralympique, pour non seulement participer, bien sûr, mais surtout ramener une médaille à la maison, parce que c'est mon rêve ultime.
Vous êtes dans quel état d'esprit, là ?
Moi, ça fait, écoutez, 5 ans que je pense aux Jeux. C'est l'objectif qui m'a sauvée, l'objectif sportif à la suite de l'accident que j'avais eu. Et c'est vrai que tous les matins, je me réveille avec ça en tête, très sincèrement. Donc, la préparation paralympique, elle a démarré déjà il y a bien longtemps pour moi. Je savais que j'avais du retard à rattraper par rapport aux autres joueuses sur le circuit. Et c'est pour ça qu'il y a 4 ans, j'ai démarré cet entraînement paralympique avec mon staff autour de moi de manière très sérieuse. Et presque, j'ai dû recommencer totalement à zéro le tennis, puisque le déplacement est totalement différent que lorsqu'on joue debout. Donc voilà, j'y pense tous les jours au jeu. J'ai à la fois hâte, à la fois je sais que le chemin va être long jusqu'au jour J, mais quand même hâte de vivre ça à domicile.
Vous étiez déjà comme ça, petite, enfant, adolescente?
J'ai toujours eu beaucoup d'élan vital. J'ai toujours aimé la vie, aimé les gens et été dans l'action. Donc, oui, je pense avoir pas changé sur ce plan-là. Voilà, j'ai eu un accident, mais c'est comme si après cet accident, ma mission c'était d'être utile pour les autres, d'être dans l'action encore plus qu'avant et pour donner du sens en fait, peut-être à ce qui s'est passé. Et à la fois aussi, ça me guérit moi et ça me permet d'aller bien et de m'épanouir.
Vous dites souvent, il y a la Pauline d'avant l'accident.
la Pauline d'après? À quoi ressemblait la Pauline d'avant l'accident?
La Pauline d'avant, c'était une jeune fille très épanouie dans sa vie professionnelle. Je travaillais dans le domaine audiovisuel, j'étais très heureuse, très épanouie vraiment dans ce que je faisais. Je m'éclatais avec des super gens autour de moi et j'étais épanouie sur le plan personnel, déjà amoureuse de Tiffen et très heureuse et tout allait bien. Je pense que je faisais partie des personnes privilégiées, qui a une enfant heureuse, qui a eu beaucoup d'amis, qui a été très entourée et surtout j'avais encore une insouciance. Finalement, c'est peut-être ce que j'ai le plus perdu dans la Pauline d'après. La Pauline d'après, maintenant, elle sait que ça existe, entre guillemets, que les drames peuvent exister et peuvent vous toucher et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais le but, c'est d'aujourd'hui de réussir à transformer tout ce qui m'est arrivé en quelque chose d'autre et de positif.
Le 27 octobre 2018, votre vie bascule. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ce jour-là ?
C'était un samedi comme les autres, un jour ordinaire, mais qui, voilà, sur le papier, me plaisait bien. J'avais fait mon sport le matin. Tiffen, ma copine de son côté, avait fait son sport et on avait fait un déjeuner entre copines. Et je me souviens de ce jour-là parce que j'avais beaucoup ri. Vous savez, ce genre d'après-midi entre copines où vous allez vous faire les ongles et que vous avez des fous rires pour rien. Et avec le recul, je me dis aujourd'hui qu'on peut vraiment, réellement passer du rire aux larmes en un instant. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, puisque banalement, Tiffen et moi, on décide de s'arrêter, acheter des fleurs parce qu'on avait un dîner très important le soir, puisqu'elle me présentait officiellement son frère. Et voilà, et je décide de ne pas m'arrêter au premier fleuriste qu'on croise. J'étais en scooter. Finalement, parfois, la vie, ça se joue à un choix. Et je décide de m'arrêter au fleuriste qui était plus près de chez nous. Et là encore, je fais le choix de la laisser aller dans ce magasin pour aller plus vite. Je me souviens, on était en retard et je me dis, ça va aller plus vite qu'elle y aille toute seule. Et toujours pour aller plus vite, c'est un détail mais qui a toute son importance par la suite, je décide de garder mon casque et de me garer sur le trottoir et de rester assise sur mon scooter avec mon casque. Pour ceux qui font du deux roues, c'est inconfortable normalement de garder son casque. Mais là encore, je me dis, voilà, je ne vais pas prendre le temps de l'enlever, ça va aller vite. Et j'attends Tiffen. Voilà, en une fraction de seconde, je me retrouve 50 mètres plus loin, par terre. J'ai plus mon casque qui a sauté lors du choc. Et surtout, je reprends tout de suite conscience. J'ai été inconsciente l'instant seulement du choc. Et là, je m'aperçois, je vois tout de suite, même s'il y a déjà beaucoup de gens qui s'agitent autour de moi, qui s'affairent autour de moi, je sens qu'il se passe quelque chose et on m'empêche de regarder, mais je finis par donner un grand coup de thorax et là, je vois qu'il me manque un bout de jambe, que j'ai perdu ma jambe. Et ce moment, il est assez critique, évidemment, parce que à la fois, tout de suite, ça va très vite dans ma tête, je me dis, ok, je respire, je suis consciente et je suis en vie. Et là, par contre, je me rends compte au même instant qu'il me manque ma jambe. Et c'est vrai que je me souviens avoir crié, avoir poussé un cri de détresse, mais je pense que voilà, parce que j'avais compris que celle que j'étais ne serait plus désormais et que quelque part j'allais laisser beaucoup sur ces pavés, parce que c'était une rue avec des pavés. Vous vous souvenez de n'importe quel détail après, par la suite. Et tout de suite, le seul repère que j'ai à ce moment-là, c'est Tiffen qui me retrouve par terre et qui me raccroche à la vie à ce moment-là et qui me dit, comme si elle lisait dans mes pensées toute la détresse, les questions, les interrogations que j'avais, « Ne t'inquiète pas, je serai là et je t'aimerai toute ma vie ». Ça, c'est une déclaration d'amour, évidemment, que j'oublierai jamais, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez pas demander mieux que d'entendre la personne que vous aimez vous dire « Ne t'inquiète pas ». Et c'est vrai que voilà, ça a été une machine à laver où moi, mon cerveau, il se met en mode survie à ce moment-là et je demande à Tiffen, je demande aux pompiers qui me secourent, dites-moi qu'ils vont recoller ma jambe, dites-moi qu'ils vont recoller ma jambe. J'avais que ça à la bouche parce que je faisais une fixette, j'avais besoin qu'on me rassure en fait. Et je me disais très sincèrement que la médecine aujourd'hui fait des choses fantastiques et qu'on pourrait me recoller ma jambe. Et j'ai été hospitalisée, j'ai été emmenée à l'hôpital militaire de Percy. Alors pourquoi cet endroit? Parce que je l'apprendrai par la suite, ce que j'avais, donc une jambe arrachée, c'est comme une blessure de guerre et que bah, eux, c'est les meilleurs pour traiter ce genre de blessure. Et la première question que je pose en arrivant sur le brancard avant d'aller au premier bloc opératoire à un médecin, c'est la fameuse question « Est-ce que vous allez me recoller ma jambe ?» Et tout de suite, celui-ci arrête mon espoir en me disant « Ça, malheureusement, mademoiselle, ça ne va pas être possible. » Donc je pars pour cette première opération en sachant que c'est fini. J'ai perdu ma jambe. Et là, vous vous laissez porter, évidemment, par l'anesthésie générale, etc. Et c'est que quelques heures après, en salle de réveil, où je reprends mes esprits petit à petit, et que j'ai la chance d'avoir déjà mon entourage proche. Ma mère était en voyage, elle est venue le lendemain, mais il y avait mon papa, mes frères et sœurs, et évidemment Tiffaine, qui ont eu le droit de venir me voir, et qui étaient évidemment très inquiets. Je lisais dans leur regard effectivement leur effroi, leur inquiétude. Je l'ai su par la suite, ils avaient peur que je ne sois plus jamais la même, psychologiquement et mentalement. Et je me souviens avoir vu leur tête et avoir eu envie de les rassurer et aussi de me rassurer à moi-même, parce que je pense que c'est important de le verbaliser et de poser là, à ce moment précis, un objectif fort, ambitieux et comme une promesse envers eux et envers moi-même. Et je leur ai dit, un petit peu sur le ton de la rigolade, mais sérieusement quand même, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux Paralympiques de Paris en 2024.
Vous restez 8 mois à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart. Comment se déroulent vos journées alors et à quoi elle ressemble, cette Pauline, d'après l'accident ?
Ça a été long, cette hospitalisation. L'hôpital militaire de Percy, c'est ma maison encore aujourd'hui. Je dis que c'est la maison parce que oui, j'ai passé du temps. Je suis tellement passée par tous les états. Déjà, il y a eu trois mois de douleurs physiques, morales, psychologiques, où j'ai beaucoup subi parce qu'on me demandait de faire confiance aux médecins, d'attendre que les opérations se fassent, d'attendre que la cicatrisation se fasse. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi d'être passive, de rester alitée, d'obéir aux ordres, en fait. Donc j'ai toujours été un petit peu rebelle. Je pense que les militaires, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs à l'hôpital. Donc j'ai dû traverser ça, mais là encore, avec la chance inouïe d'être très bien entourée, d'avoir Tiffaine, évidemment, du premier jour jusqu'à aujourd'hui encore à mes côtés. Et c'est seulement au bout de 3 mois que j'ai pu remarcher à l'aide d'une prothèse. Et ce jour-là, effectivement, c'était peut-être le premier jour du reste de ma vie, hein, sans faire un copier-coller, mais c'est vraiment ça, et des premiers pas que j'oublierai jamais, où la première chose que j'ai voulu faire, c'est de serrer Tiffaine dans mes bras, d'être à sa hauteur. Pour moi, c'était le début de la renaissance, et là où j'allais pouvoir reprendre possession de mon corps. Pour résumer la Pauline d'après, je pense que cette Pauline, elle a jamais eu le choix. À partir du moment où elle respirait encore et qu'elle était en vie. Au début, certainement que je ne restais pas pour moi-même, parce que dans cet état, je me disais, mais à quoi bon ? Voilà, on a touché à mon corps, qui est mon moteur, qui me permet de m'exprimer, notamment dans le sport. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et puis, petit à petit, vous faites confiance à ceux qui vous entourent, qui vous donnent la force, l'énergie. Et j'ai commencé à me battre pour moi, pour reprendre possession de cette nouvelle vie dont j'ignorais totalement le futur. Pour vous dire d'où je partais, moi, une prothèse, j'appelais ça une attelle, tellement j'étais ignorante. Donc j'ai basculé dans un monde que je ne connaissais pas, ni près de loin. J'avais jamais été blessée, j'avais peur du sang, j'avais peur de l'hôpital, j'avais peur de tout. Mais je me suis retrouvée face au mur et je pense que l'instinct de survie, il m'a fait dépasser beaucoup de choses. Et là encore, je le dis aujourd'hui, mais je n'avais pas le choix que de m'en sortir.
Et justement, comment vit-on avec une prothèse ? Est-ce que les gens vous regardent différemment ?
Le regard des gens, effectivement, c'est ce qui vous rappelle que vous avez une prothèse et ce qui vous est arrivé. C'est peut-être le regard auquel il faut faire face le mieux possible. Au début, ça a été difficile. Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, c'était l'été, un été caniculaire, où forcément, je n'allais pas me mettre en pantalon, sinon j'allais avoir trop chaud. Et donc, vous devez affronter le regard des autres à qui j'en ai jamais voulu de regarder, parce que moi-même, je pense qu'une prothèse, c'est visuellement, ça se voit, quoi, ça attire l'œil. Donc, par curiosité, on regarde. Mais quand vous n'êtes pas encore OK avec cette nouvelle prothèse, c'est difficile parfois d'affronter les regards. Mais j'ai eu de la chance là aussi d'être entourée. Je me souviens rameuter toute ma famille, Tiffaine autour de moi comme un harem pour me protéger des regards des autres. Et surtout, avec le temps, j'ai compris que les gens regardaient. Et puis que derrière, généralement, il passait à autre chose. Et que ça dépendait comment je le portais. Et que plus je le portais avec assurance, le fait d'avoir une prothèse, plus c'était OK pour les gens, en fait. Et ça, évidemment, ça vient... il faut se faire violence au début. Hein, quand vous sortez la première fois, que des personnes de votre entourage qui vous ont vu avec vos deux jambes, ils vont vous voir pour la première fois avec une prothèse. Il faut avoir un petit peu de courage pour y aller. Mais une fois que c'est fait, vous passez à autre chose aussi et la vie continue.
Après ça, il vous faut encore apprivoiser le fauteuil pour pouvoir rejouer au tennis. Au début, je crois que vous vous y refusez. Pourquoi ? Vous voulez rester debout, être assis, ce serait...
Ça a été compliqué pour moi de me faire à l'idée de pratiquer désormais un sport que j'avais toujours pratiqué debout. Je voyais ça comme une régression. J'avais beaucoup de préjugés sur le handicap, hein, je n'ai pas honte de le dire. Je pense que j'ai beaucoup grandi évidemment là-dessus et sur la vision du handicap au sens large du terme. Mais je faisais un blocage psychologique effectivement de me dire je vais jouer au tennis maintenant mais ça sera en fauteuil. Je voyais pas du tout la dimension physique du fauteuil de sport et c'est évidemment quand on m'a vendu entre guillemets le projet que je pouvais faire en tennis fauteuil pour aller aux Jeux Paralympiques en 2024, on m'a vendu du rêve, on m'a invité à Roland-Garros et j'ai surtout essayé et ça m'a plu. Et là, tout de suite, j'ai vu la dimension extrêmement physique et très sportive du fauteuil. Donc, j'ai tout de suite adhéré, finalement.
À quel moment vous trouvez votre place dans cette nouvelle vie, Pauline ? Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit « Je suis là où je dois être
» C'est pas si lointain que ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fois où je me suis sentie enfin mieux dans ma vie. Mais là où j'ai eu peut-être un déclic de me dire « Ok, c'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que j'ai choisi cette vie, c'est pour ça que je me suis battue après cet accident alors que j'étais au fond du trou », c'est quand j'ai disputé mon premier Roland-Garros. Et surtout, premier match à Roland-Garros et première victoire. Et cette émotion que j'ai ressentie quand je sers un service gagnant, que je vois que mon adversaire ne touche pas la balle et qu'il y a une fraction de seconde de silence où vous comprenez que ça y est, c'était balle de match pour vous et que je gagne le match. Et que là, tout le public, qui avait mes amis, des gens même inconnus, mais qui me soutenaient à fond, le court 13 était rempli ce jour-là. Là, je me suis sentie à ma place, mais comme jamais. Et j'ai compris pourquoi j'avais finalement eu ce chemin semé d'embûches, parfois, pour être là à ce moment précis. Et Roland-Garros, en plus, c'était quelque chose de très symbolique pour moi, c'est le tournoi qui m'a donné envie de jouer au tennis quand j'étais petite fille. J'ai tout suivi depuis plus jeune âge. Et d'être là, à cette place, et de gagner mon premier match à Roland-Garros, c'était inouï. Et surtout, je me suis dit, je ne veux plus jamais que ça s'arrête. Je veux vivre ça encore et encore parce que c'est ici que je me sens à ma place.
Vous avez mis 2 ans avant d'être confronté au chauffard qui vous avait percuté, un homme de 90 ans. Ça s'est passé comment ? Qu'est-ce qu'on ressent face à l'homme ? Qui vous a brisé ?
Ça a été un moment très très fort, vous imaginez bien. Il y avait vraiment eu là encore un avant et un après. Cet échange était nécessaire pour moi. J'avais fait la demande au juge d'instruction de notre affaire et ça a pu se faire, je tiens à le préciser, dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Donc c'est un temps qui sort du cadre judiciaire où il y a une médiation qui est arbitrée par une médiatrice qui permet aux deux parties d'avoir cet échange. Effectivement, moi, j'attendais beaucoup de réponses de cet entretien. J'avais besoin de comprendre à qui j'avais affaire, quelle était sa version de l'accident et peut-être de désamorcer beaucoup de colère que j'avais encore. Effectivement, la colère m'a servi, hein, a été un moteur, c'est indéniable. Mais quand même, la colère, au bout d'un certain moment, ça vous ronge, ça fait des dégâts autour de vous parce que vous faites du mal à votre entourage, parce que vous avez cette colère qui vous ronge. Et je pense qu'il était venu le temps de de casser cette colère, en tout cas de changer quelque chose. Et cet échange a été très fort. Ce monsieur, je me suis retrouvée face à lui et sa femme, puisqu'ils étaient tous les deux dans la voiture. Ça aurait pu être mon grand-père. J'ai eu beaucoup de compassion pour lui. Il ne m'a pas demandé pardon et il a eu, je dirais, la décence de ne pas le faire parce que ça, c'est quelque chose où j'aurais eu du mal à pardonner. Mais voilà, c'est un monsieur qui m'a dit qu'il savait qu'il n'était plus capable de conduire, qu'il avait prévu d'arrêter, que c'était un assassin, un criminel, qu'à cause de lui, j'étais handicapée. Et à un moment donné, même dans la conversation, c'est moi qui l'ai presque consolé de lui dire « Mais non, vous n'êtes pas un criminel, je suis encore en vie ». Mais moi, voilà, finalement, j'avais juste besoin d'entendre que oui, vous saviez que vous n'étiez plus capable. Oui, c'est une erreur et que vous auriez dû arrêter de conduire. Que cet accident aurait pu être évité si une seule personne, en l'occurrence vous, avait arrêté de conduire. Et ça m'a confortée dans le combat, évidemment, sociétal que je mène désormais dans la sécurité routière où je me bats avec les pouvoirs publics pour qu'en France, on n'ait plus le permis de conduire à vie, et qu'on repasse des visites médicales au cours de la vie et avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir cet échange avec cet homme qui m'a confirmé qu'il avait été victime de lui-même, que s'il y avait eu une loi, et ce sont ses mots, il l'aurait respectée. Et ça m'a apaisée, quelque part. C'est comme si ça avait réorienté la colère que j'avais contre cette personne, envers, évidemment, la vie, mais surtout notre société, qui, encore aujourd'hui, n'intervient pas sur la responsabilité de chacun de conduire et laisse des gens inaptes à conduire. Et donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment apaisée et ça m'a donné encore plus d'énergie pour continuer ce combat, pour que ça n'arrive plus jamais à d'autres personnes, le moins possible, en tout cas.
Vous allez souvent raconter votre histoire dans les écoles, me semble-t-il. Comment réagissent les enfants ?
Les enfants, ils sont extraordinaires. Ils me donnent énormément d'énergie, de force. Et voilà, moi, j'avais une autre casquette dans mes métiers, dans ma vie d'avant. J'étais professeure de tennis. Je donnais des cours de tennis à des enfants. Et j'avais déjà ce goût pour être dans la transmission. Je pense que c'est ça qui est merveilleux et que notre société devrait être à l'image de ces enfants qui n'ont pas peur de poser toutes les questions que les adultes ont peur de poser.
Comme quoi, par exemple ?
Ben, écoutez, c'est souvent effectivement autour du handicap, d'essayer de comprendre le fonctionnement, pourquoi tu as une jambe de robot. D'utiliser des mots très francs. Le monsieur, il t'a pas vu. Pourquoi il a conduisé encore ? Et c'est vrai que moi, je me rends compte à chaque fois que les enfants, une fois que vous leur avez répondu de la même manière, donc sincèrement et franchement, ils passent à autre chose et ils vous demandent comment vous jouez au sport. Et voilà, c'est un détail en fait.
Devenir mère d'une petite Ava avec votre compagne Tiffen, ça a changé quoi ? Est-ce que ça a changé par exemple votre regard sur ce parcours incroyable qu'est le vôtre et sur la vie à venir ?
Ça a été le plus grand bouleversement de ma vie de devenir mère. Mais c'est vrai que voilà, notre petite fille, quand elle est née, il se trouve qu'elle est née le 27 juillet 2022. Et c'est vrai que c'est un 27. Mon accident, elle était le 27 octobre. Et c'est comme si elle avait choisi ce 27 pour le transformer déjà en quelque chose d'autre. Et moi, ça m'a évidemment bouleversée. Ça a bouleversé aussi ma façon de voir les choses. Après l'accident, j'avais beaucoup plus de fatalisme en me disant, il m'est arrivé ça. S'il me réarrive quelque chose, ça sera le destin, ça sera écrit. Et c'est vrai que le truc moins sympa quand vous avez un enfant, c'est que vous vous remettez à avoir peur de tout, à avoir peur pour votre enfant et pour vous-même aussi. Donc le regard sur la vie, sur ce que vous faites n'est plus du tout le même. C'est une petite fille qui met énormément de joie dans nos vies, comme si ça nous réconciliait avec le bonheur et qu'enfin on y avait le droit après tant d'épreuves. Donc on est très heureuse, on a toujours veillé à ne pas lui faire porter aussi le bonheur qu'elle nous procure après tout le mal qu'on a eu, parce que c'est une petite fille qui aura déjà beaucoup de différences, qui aura deux mamans, dont une maman avec une prothèse. Et on lui explique tout ça de manière très naturelle. Et je pense qu'elle aura toutes les armes pour bien vivre et grandir dans la vie. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec Tiffen. Et voilà, on a hâte de vivre cette vie avec elle.
Est-ce que vous repensez par moments à la Pauline d'avant ?
J'ai beaucoup de nostalgie encore de la Pauline d'avant. Voilà, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai beaucoup de chance. Je suis heureuse et très épanouie et je mène une vie qui sort de l'ordinaire. J'ai vécu des choses depuis 5 ans, extraordinaires au sens propre du terme. Bien sûr, demain, si on me rendait ma jambe et ma vie d'avant, je la reprendrais et je reprendrais tout avec parce que celle que j'étais, je ne l'oublie pas, ça m'allait très bien. Mais je ne me pose pas la question puisque la question ne se pose pas. On ne peut pas revenir en arrière. Ceci étant dit, j'ai encore beaucoup de nostalgie. Beaucoup de mal encore à regarder des photos, notamment de celles que j'étais avant, de me souvenir. J'y pense souvent, mais j'essaye, parce que ça a été ma culture depuis 4-5 ans pour m'en sortir, de ne pas trop regarder derrière, parce que vous pouvez plus vous faire du mal que du bien. Et je pense que c'est devant qu'il faut regarder. Donc, j'essaye de faire ça.
3 petites questions rapides pour terminer. Est-ce que par moment, vous vous sentez irremplaçable ?
Pas du tout. Non. Personne n'est irremplaçable. Non, moi, je ne pense pas être irremplaçable. Je pense participer à mon humble niveau à ce que je peux faire, aux missions dont je me sens investie, surtout depuis que j'ai eu cet accident, et aider les autres. Moi, on m'a tendu la main. J'ai eu un entourage extrêmement solide de mes proches aux soignants, dont je suis éternellement reconnaissante. Et je pense que si je peux participer à la reconstruction de certaines personnes qui ont plus de mal, je le fais. Mais je ne suis pas irremplaçable, parce que si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. C'est ça la vie.
Inversement, est-ce que vous avez jamais eu peur d'être remplacée ?
J'aurais eu peur d'être remplacée si j'étais plus là. Je sais que j'aurais pu mourir dans cet accident, et je l'ai peut-être réalisé d'autant plus quand j'ai eu ma fille, où je me souviens qu'on m'avait dit vous avez miraculeusement gardé votre casque qui vous a protégé la tête. À la distance à laquelle vous avez été projetée, vous auriez dû mourir. Et c'est vrai que quand on vous le dit sur le moment, vous ne vous rendez pas compte. C'est après, quand vous vivez beaucoup de choses que vous n'auriez pas pu vivre, que là, vous vous dites, OK, j'aurais pu plus être là. Et là, j'aurais eu du mal à me faire remplacer dans la vie de Tiffaine, par exemple. Donc, heureusement, la question ne se pose pas. Je suis là et heureuse de l'être. Donc, voilà, je pense que quand on est bien à sa place, on n'a pas envie de la donner et de se faire remplacer. C'est humain.
Et enfin, qu'est-ce qui est déplacé, selon vous ? Est-ce que l'on n'a jamais été déplacé avec vous ?
Déplacé, je ne sais pas, peut-être décalé. Je pense que la société, elle est décalée avec certaines épreuves que vivent certaines personnes. Et qu'elle n'est... Voilà, évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas. Ça prendrait trop de temps, dans notre société à 1000 à l'heure. Mais parfois, moi j'en parle avec des gens qui ont vécu des choses graves, des drames, des deuils, sans parler de forcément d'un accident comme le mien, mais et puis il y a pire que mon accident. Mais je pense que on a ce même sentiment de se sentir en décalage avec le monde dans lequel on vit, où on peut se plaindre beaucoup, où on peut ne pas avoir la chance qu'on a d'être en bonne santé, d'être entouré, et que malheureusement dans nos sociétés, j'ai l'impression qu'il faut encore qu'il nous arrive quelque chose de grave pour qu'on s'en rende compte. Et c'est peut-être le décalage que je ressens parfois, et quand j'en parle, là encore, avec des gens qui vivent des choses difficiles, on a ce même sentiment. Donc je dirais plutôt décalé, oui.
Pauline Desroulettes, merci. Merci infiniment.
Merci à vous.
Je suis Marion Ruggieri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous.